With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mesdames et messieurs,
êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, parce que l'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bonjour et bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast de la bagarre. On se retrouve après une longue coupure dans les enregistrements, puisque c'est le premier épisode que j'ai la joie de faire depuis mars dernier. Aujourd'hui, c'est Baston d'Agent Secret. L'un a réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. L'autre est plus swag que Michel Polnareff. Vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est James Bond qui défie Ethan Hunt dans l'arène. Mon experte du jour est Vesper, vidéaste pop culture, comment ça va?
Bah ça va, et toi? Merci beaucoup pour l'invitation, c'est super. Quel sujet incroyable pour ma venue.
Bah écoute, avec plaisir, hein. merci de venir, merci d'avoir accepté de relever le défi. J'ai cru comprendre que tu aimais bien James Bond, mais pas que.
De par le choix de mon pseudo, ça donne un léger indice, oui c'est sûr, effectivement. Oui, grosse fan de James Bond, mais aussi bon, moi, désolé, moi je dis Ethan Hunt, hein, je fais avec l'accent français jusqu'au bout. Mais voilà, donc non, j'aime beaucoup les hommes en smoking qui se tapent dans les toilettes.
Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais quand tu parles pas d'agents secrets qui se tapent dessus?
Ah bah écoute, je faisais des vidéos, il fut un temps quand j'avais encore un peu le temps sur ma chaîne YouTube. Sinon effectivement, j'accepte avec grand plaisir toute proposition de podcast quand on me demande effectivement mon avis là-dessus. Et sinon, je fais un peu de Twitch de temps en temps. Voilà, le confinement a eu cet effet-là sur moi aussi. Donc voilà, donc c'est bien sympa et où je parle aussi de cinéma et de séries dans la joie et la bonne humeur.
Super, bah écoute, on mettra les liens en description de l'épisode, bien entendu.
Ah, formidable!
Alors dis-moi, pourquoi as-tu accepté cette mission un peu impossible?
Ah bah écoute, évidemment, tu me dis, on te demande de comparer les deux plus grands sex symboles de ta vie. Bon ok, il y a pas Harrison Ford dedans, mais presque. Mais en tout cas, beaucoup de mes coups de cœur. Et tu me demandes d'en parler dans le respect et les règles de la bagarre. Je suis obligé de dire oui.
Ah, le respect, les règles, on va voir. Hein.
Et la mauvaise foi, peut-être.
Les agents secrets, ça tape en dessous de la ceinture. Hein.
C'est vrai. Non, j'ai eu une grosse fan de James Bond. Enfin, grosse fan des deux franchises. Je maîtrise quand même un tout petit peu moins Mission Impossible, mais je les attends au fur et à mesure un peu plus à chaque film. Et Fallout, pour moi, était vraiment une énorme réussite et je l'attendais beaucoup. Donc vraiment, Mission Impossible n'a plus rien à envier à James Bond pour moi.
Ah.
Cinématographiquement parlant, dirons-nous. Après, on pourra parler des personnages.
Le premier sang est versé.
Exactement.
Alors, est-ce que tu te sens de présenter rapidement qui est qui? Alors, pour les gens qui, je sais pas, qui viennent de se réveiller d'une hibernation de 70 ans, par exemple, qui ne savent pas qui est James Bond.
Bah oui, avec plaisir. Eh bien, du coup, donc James Bond est anglais, c'est important à signaler. Oui. Donc, c'est un agent secret du MI6, donc les services secrets britanniques. Et c'est l'agent secret le moins secret du monde, vu qu'il passe toujours son temps à se présenter et à dire son vrai nom quand on vient à sa rencontre. Il est connu du monde entier pour son amour pour les belles femmes, les belles voitures et les beaux voyages. Donc voilà, il a une galerie de méchants, j'ai l'air de vilains, ça y est, je parle, je fais des anglicismes partout.
De vilains.
Vilains. Voilà, une galerie de méchants qui pour moi est qui vaut au moins celle de Batman. Et donc, voilà, ça fait quand même depuis 1962 officiellement, on va dire, au cinéma qu'on suit toutes ces aventures et sans trop se lasser.
C'est vrai, sans trop se lasser.
En plus, on enregistre cet épisode quelques jours à peine après le décès de Sir Sean Connery. Donc,
oui, c'est vrai.
Depuis le temps qu'on a repoussé cet épisode.
Oui, en fait, pour la petite histoire, on avait prévu de faire cet épisode pour la sortie de No Time to Die en mars.
Voilà.
C'était il y a une éternité.
Ouais, c'était dans l'ancien monde.
C'était, voilà, exactement, le monde d'avant. Et voilà. Bon, bah, finalement, on s'est dit qu'on allait arrêter de le reporter parce que sinon... Si on attendait la sortie du film, on n'allait pas s'en sortir, quoi.
Bah ouais, non, c'est ça qui est un peu triste. Et bon. Donc de l'autre côté, effectivement, on a Ethan Hunt, donc qui lui est américain. Et oui, c'est Ethan qui te fait rire. Ouais, je suis obligé.
Je rigole parce que dans la VF, c'est horrible parce que c'est Izan.
Oui, c'est non, mais c'est pire. Ça. Je préfère assumer dire Ethan plutôt que
ouais,
Izan.
C'est mieux que
je veux dire, on va jusqu'au bout. Non, mais comme ça, l'abcès est crevé. Comme ça, s'il y a des gens que ça trigger, voilà, ils savent que c'est fait exprès. Et donc, du coup, lui qui fait partie donc d'un service qui s'appelle l'IMF. Et effectivement, on va dire que son gros point de divergence avec Bond, c'est que Ethan est plus souvent en équipe. Donc il a vraiment un vrai staff autour de lui et lui il est quand même beaucoup plus discret et un peu plus posé d'un point de vue marital que James Bond, mais tout aussi amateur de cartes postales, de cascades et de gadgets plus ou moins crédibles.
Moi j'ai percuté que il y a quelques jours que parce que je suis vraiment pas calé en Mission Impossible. Que Ethan Hunt ne faisait pas partie du crew originel de la série Mission Impossible, en fait.
Que c'était une création.
C'est une création de Tom Cruise, en fin de compte. Enfin, je sais pas exactement comment c'est arrivé. C'est le véhicule de Tom Cruise vers.
Oui,
la,
c'est ça. Ouais, j'ai
dit,
on pourra en reparler, mais effectivement, difficile de dissocier l'un de l'autre. Ça, ouais. C'est clair et net.
Ce qui est marrant, c'est que, alors peut-être que tu avais prévu d'en parler, mais j'aime beaucoup le premier Mission Impossible, mais j'ai toujours été surpris qu'il décide de faire du héros de la série l'antagoniste du premier film. Et bon, moi je suis pas fan de la série, donc je m'en fous un peu, mais je me dis que les fans de la série ont dû vraiment être pas très contents à l'époque.
Ouais, en fait. Bah après, je pense que c'était une époque où il n'y avait pas Twitter, donc les gens avaient beau pas être contents.
C'est ça.
On l'entendait moins, donc.
C'est le truc que tu pourrais pas faire maintenant.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est compliqué. Hein. Mais oui, non, c'est quand même une bonne idée, quoi. Après, oui, effectivement, je suis pas assez dans le fandom Mission Impossible pour savoir si les dents avaient beaucoup grincé, mais avec le recul maintenant et la sagesse des années, je trouve que c'est une bonne idée.
C'est comme si on faisait un reboot de Star Trek et que Captain Kirk était le méchant, quoi.
Ouais, compliqué, ouais. Non,
imagine mais... Twitter.
en feu. Bon, à raison, mais en feu quand même.
Bon, bah écoute, on va démarrer les hostilités, hein, y a pas de raison.
Eh ben, vas-y.
Quel est votre pronostic pour ce combat ?
Pronostic ?
Oui, votre pronostic.
Une boucherie.
Alors, premier round, on l'a appelé « Qui est le plus connu ?» Je pense que la réponse, la question, elle est vite répondue, comme dit l'autre. Mais on va quand même essayer de se poser un peu la question. Mm-hmm. Je sais pas, on peut peut-être se baser sur le chiffre, sur, je la refais. Je sais pas, on peut peut-être se baser sur les chiffres du box-office, par exemple.
Alors effectivement, au niveau du box-office, donc j'ai fait aussi mes devoirs avant cet enregistrement, et je ne pensais pas que l'écart était et c'était aussi violent. Je me rappelle en fait beaucoup de l'époque de Casino Royale, donc du coup 2006, où en fait le mot d'ordre était vraiment de donner un coup de jeune à Bond qui semblait vraiment à la ramasse et un peu périmé quand on voyait à l'époque l'émergence justement de des Bournes et des Missions Impossibles, donc du coup dans les années 2000. Et donc du coup c'était vraiment les deux un peu les deux ennemis à abattre pour Broccoli et à l'époque c'était déjà Sony, enfin bon bref, pour Bond quoi, c'était vraiment les fallait vraiment moderniser tout ça. Je vais y arriver, je vais chercher moderniser, je suis navrée, ça, on sent que je suis fatiguée. Et au final quand on regarde les chiffres, on voit que des deux franchises, le film qui a le plus marché, c'est Skyfall. Et de loin, parce qu'il a fait 1 milliard 110 millions de dollars, donc c'est beaucoup.
C'est de colossal.
Recettes, donc worldwide. Donc ouais. Là, pour le coup, disclaimer, les chiffres que j'ai, ça vient de Box Office Mojo, donc pour tout ce qui vient d'années un peu plus anciennes. Je ne sais pas si l'inflation a été bien comptée ou pas. Donc s'il vous plaît, ne me tapez pas. Voilà, ça, je vous en prie. Réfrénez-vous. Et donc effectivement le deuxième c'est Spectre. Donc du coup deuxième film de vraiment des deux franchises combinées avec 880 000 millions. Donc c'est beaucoup. Et le troisième c'est Fallout en fait. Donc du coup qui est donc le plus gros succès de Mission Impossible en fait, et à la troisième place et qui est à 787. Et là, après, effectivement, tu te rends compte que Ghost Protocol et Rogue Nation, en fait, ferment la marge du top 5. Donc, tu peux te dire à la fois, tu peux voir le verre à moitié plein en te disant que les deux premiers, c'est bon des deux loin, et le verre à moitié vide en te disant que dans le top 5, en fait, il y en a trois qui sont des missions impossibles, en fait.
Ouais.
Qui sont suivies après par Casino Royale, par exemple.
Ouais, ouais. Mais du coup, là en plus on est fair play avec Tom parce qu'on
a peur de la scientologie.
Ouais. Parce qu'on n'a pas envie de finir enlevé par des aliens.
C'est ça.
Mais on prend que les 25 dernières années quoi, en gros depuis
oui.
même pas parce que là on compare un peu l'ère Craig avec la franchise.
Bah c'est ça le top 5 en fait, c'est littéralement les 8 dernières années quoi, parce que les films vont de 2012 à 2018.
Alors que oui, c'est ça. Alors que le premier Mission Impossible, si je me trompe pas, est sorti en 96, je crois.
Le tout premier, oui, c'est ça, en 96, ouais.
Et donc, ça fait même une plus grande période de temps. Et en 96, il y avait encore des James Bond avec Pierce Brosnan.
C'est le 9e de mon top, tu vois, 96.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, non, il n'y a pas photo, quoi.
Non, il y a pas photo, mais après voilà, tout dépend ce que tu veux voir en te disant que Mission Impossible et il y en a quand même trois, donc c'est quand même pas mal quoi. Et après tu retrouves deux Bond avec Casino Royale, Quantum of Solace, et ensuite t'as Mission Impossible 2 et Mission Impossible. Donc ouais, et ensuite ouais. Donc du coup Die Another Day si on veut revenir sur du Brosnan effectivement.
Mais donc ouais, si on cumule tout et qu'on reste sur le même nombre de films sortis, si on fait genre la moyenne par film sorti, c'est quand même les Bond qui gagnent du coup.
Alors du coup j'ai pas calculé, mais j'ai envie de te dire oui. Mais oui, non, c'est quand même impressionnant de se dire. On a conscience que la sortie d'un Bond c'est quand même un énorme rouleau compresseur, mais c'est vrai que dans un monde où du coup tu sais que t'as tant de blockbusters qui sortent par an. On a peut-être tendance à les mettre plus sur des pieds d'égalité parfois quand tu sais que chacun est un succès. Et là, c'est vrai que d'avoir les chiffres sous les yeux, ça m'a quand même bien surpris. Surtout qu'en plus, je me rappelle vraiment qu'en 2015, donc du coup qui était l'année de Spectre, donc c'était aussi l'année donc de Rock Nation, c'était l'année aussi de Spy de Paul Feig, et c'était aussi l'année de Code Uncle si je ne m'abuse. Donc, c'était vraiment une année avec beaucoup de films d'espions. Non, l'année de Kingsman, pardon. Et enfin c'était une année vraiment avec beaucoup de films d'espionnage et où vraiment on aurait pu se dire avec Spectre qui sortait à la fin de l'année, est-ce que Bond est toujours pertinent là-dedans quoi. Et la réponse est oui. Final.
C'est extraordinaire en fait de se dire à quel point c'est vrai que James Bond c'est juste l'un des personnages les plus connus de la pop culture, je pense que
la pop culture
mondiale quoi, tout ça
peut difficilement c'est sûr que au moins après je pense que c'est aussi on pourra en parler peut-être après mais on va déjà le dire là mais c'est vrai que je pense que pour les gens Mission Impossible c'est plus Tom Cruise que Ethan Hunt en fait.
Oui.
Donc oui. c'est ça aussi au niveau de l'iconisation un peu du personnage. James Bond a beau avoir changé d'acteur, la figure reste toujours aussi forte au fur et à mesure des années. On verra du coup maintenant que Daniel Craig tirera un jour sa référence quand un jour No Time to Die sortira. donc il sera toujours temps d'en reparler quand il sera remplacé, mais. Ça reste quand même impressionnant au même titre que des personnages de Star Wars, que des personnages de Harry Potter, que plein de choses, enfin c'est là et c'est amené à durer quoi.
En fait, tu comprends quand tu entends les chiffres que ça représente, parce que finalement on n'en parle pas beaucoup du volume économique que ça représente, tu comprends que nous, on est des fans de ciné, et donc quand on voit les histoires de sorties décalées, de sorties en VOD et tout ça, on voit le côté spectateur, et je pense qu'on a raison d'ailleurs, mais on comprend aussi les enjeux économiques de fou qu'il y a derrière, en fait. Quoi.
Ah oui, bah surtout que là, un James Bond, en fait, tu ne vends pas qu'un film, tu vends la montre qui est du partenaire du film, que ce soit ces dernières années, il y avait Omega par exemple, donc tu sais que tu vas avoir la montre James Bond Omega qui va sortir. Quand le partenariat c'était donc avec Sony, ils avaient tous donc le téléphone Sony, les ordinateurs portables qui allaient avec. Enfin, t'as vraiment tout ça, c'est-à-dire que James Bond, t'as ça, t'as la bouteille d'alcool, que ce soit le champagne. Là, plus récemment, tu as eu le placement de produit, c'était de la Heineken. Donc voilà, Daniel Craig est passé du Dom Pérignon à Heineken. Mais ça m'a toujours fait rire. Mais voilà, c'est vraiment James Bond, tu, au niveau du rouleau compresseur marketing, c'est dingue, quoi. À défaut, là, c'est même plus des jouets, mais bon, ça représente quand même, je pense... niveau d'équivalent de jouets d'autres franchises, mais c'est ouf au niveau au moins des produits de luxe, c'est tout ça qui est vendu en même temps que le film, donc du coup repousser l'un ça repousse tout et t'es obligé de tout bien synchroniser si tu veux rentrer dans tes frais quoi.
On imagine que un échec au box office ou voire même une sortie qui annulée ou quasi annulée, ça peut planter une boîte de prod. Peut-être pas la planter parce que c'est des majors qui ont les reins solides, mais
oui.
mais s'il y en a un ça va, mais s'il y en a genre 3, 4, 5 d'affilée où ils peuvent pas les sortir, c'est critique, quoi, en fait.
C'est ça. Et là, du coup, en plus, c'est Universal qui a repris le flambeau et tout, donc c'est pas évident, quoi. Donc c'est ça, et en plus il y avait des rumeurs donc là qui ont été démenties entre temps, mais il y a quelque temps on avait eu des rumeurs de ils envisageraient de sortir le film en SVOD ou autre, mais une fois que tu fais ça ça n'a plus l'impact est moins grand quoi.
Ah bah oui,
donc, forcément c'est le reste qui se casse la figure, mais ça c'est un autre débat.
C'est un autre débat. ça sera quand on fera Covid contre
Covid contre Gaumont Pâté quoi.
Bon, en attendant c'est James Bond qui marque le premier point
du coup. James Bond marque le premier point de loin.
Passons au second round. On va voir peut-être que Izan Tom va pouvoir se refaire sur qui a les meilleurs gadgets.
Ah bah alors qui a les meilleurs gadgets, je les mets sur un pied d'égalité. C'est un tie, comme disent nos amis les Américains. Parce que tu peux, d'un premier abord, forcément, tu vas penser à James Bond. Parce que tu vas te dire, qu'est-ce qui est un peu iconique et bien barré. Donc tu vas te dire forcément, avec son téléphone portable, avec son superbe Nokia, il peut conduire sa voiture, il a le pistolet d'or, justement, se démonte et est composé de plein de choses formidables. Il y a des lasers, enfin il y a tout, enfin la montre laser, enfin tu as tout ce que tu veux dans un James Bond dont tu peux toujours rêver, le petit dispositif pour respirer sous l'eau indéfiniment, enfin t'as vraiment la totale. Sauf que, en y réfléchissant bien, Ethan Hunt quand même, on va dire qu'eux ils reposent sur surtout un gadget qui est devenu vraiment le gimmick de la franchise, qui est leur dispositif pour se créer des masques, pour se déguiser, ouais. Qui est incroyable. Et à chaque fois tu te dis, ah ils vont pas le ressortir, et à chaque fois ils le ressortent. Mais ça fait mouche à tous les coups, je trouve. Et vraiment, je trouve qu'au niveau de la crédibilité, c'est aussi débile que c'est aussi débile au final qu'un briquet que tu branches et qui devient un pistolet d'or, tu vois.
Ah oui.
Donc mais... au final, et comme c'est vraiment, on est vraiment sur une étape au-dessus, qu'il y en a moins, mais qu'on est vraiment sur une étape au-dessus, j'avais décidé de les mettre sur un pied d'égalité.
Ouais, j'accepte ça.
parce que c'est vrai que
non, mais c'est vrai que attends, c'est vrai que dans Mission Impossible, ils sont très 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 forts en technologie quand même.
Ouais.
C'est-à-dire, on dit gadget, mais ça va au-delà de ça. Alors, je pense qu'en cyberespionnage, ils sont même plus balèzes que Bond.
Ah oui, clairement. Bah, ils sont plus modernes sur absolument tous les plans où on peut être plus moderne. Ça, c'est clair.
Ouais, c'est vrai. le truc des visages, c'est vrai que c'est génial. J'ai revu Mission Impossible 2 pour les besoins de cet épisode.
Pour le travail.
Pour le travail. Parce que bon, c'est pas un film qu'on regarde de gaieté de cœur quand même. Même s'il est rigolo. À la fin, il y a une, j'avais oublié le coup de Ethan qui capture un sbire ennemi et qui lui met un visage de sa propre tronche.
Ouais.
Et lui se met le visage du sbire. Et donc il trompe tout le monde comme ça. Et mm-hmm. Je me suis dit, attends, donc le gars, il avait sur lui un visage d'un sbire. Il était venu en mission avec. Ou alors, est-ce qu'il a la machine, l'espèce d'imprimante 3D
ouais,
qui peut emmener avec lui?
Elle est incroyable, cette imprimante 3D, quand même.
Mais elle est super rapide.
Oui, ah oui, non, mais c'est dingue. Même quand, enfin, on la voit à l'œuvre en plus, non? Dans certains des films, et tu te dis, mais wow, si j'avais ça, mais tout ce que je pourrais faire avec.
Et j'ai l'impression que, alors je connais pas très bien la série Mission Impossible, je la connais même tellement pas bien que j'ai voulu regarder un épisode et je me suis endormi devant. j'ai vu quand même qu'ils avaient, j'ai l'impression qu'ils avaient plus de gadgets dans la série que dans le film. Et je me demande si notre ami Tom n'a pas voulu un peu peut-être repousser un petit peu les gadgets pour mettre plus en avant le surhomme.
Ah oui. Bah effectivement là en fait, j'ai l'impression que là où James Bond les gadgets sont plus un gimmick dans les Missions Impossibles, c'est vraiment des outils qui servent en fait Ethan à réussir littéralement sa mission, c'est-à-dire que il va avoir besoin d'un dispositif pour grimper tout en haut d'une tour à Dubaï. Et voilà. Bien voilà, là il a son dispositif extrêmement moderne pour le faire, enfin c'est des ventouses quoi. Pour grimper comme ça avec ses petites mains, mais ouais, c'était plus, j'ai l'impression qu'Ethan Hunt, c'est d'un point de vue un peu plus pratique, genre j'ai besoin de tel outil pour vraiment à ce moment précis de ma mission, vraiment pour moi plus tel Batman, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Mais que James Bond, ça va plus être évidemment, même si on a Q et que avoir une Aston Martin avec un siège éjectable, c'est incroyable, mais c'est plus de l'ordre du gimmick ouais. Et du peut-être du voilà du rigolo que que vraiment, voilà, c'est, t'en auras besoin à tel instant précis, quoi. C'est bon, bah, là, j'ai une montre, bah, du coup, je vais la faire exploser, quoi.
Mais alors il y a un truc qui est devenu quasiment un gimmick pour Mission Impossible, c'est les câbles. C'est
ils annoncent qu'ils sont suspendus à des câbles, tu veux dire?
Ouais. Alors c'est pas vraiment un gadget, mais à chaque film, j'ai l'impression qu'il finit par être suspendu à un câble juste au-dessus du sol.
Ouais, bah c'est ça. C'est que je pense que la scène a tellement marqué tout le monde que il s'auto rend hommage au fur et à mesure des films pour faire plaisir aux gens, quoi.
Après, il y a un autre truc que j'aime bien dans Mission Impossible, c'est tous les gadgets pour recevoir son briefing.
Oui, c'est vrai que c'est assez recherché, quoi.
L'appareil photo jetable, les lunettes qui explosent.
Oui, il y a la petite boîte, je sais plus, c'est un faux livre qui s'est détruit, je crois.
Ouais. Ça fait, d'ailleurs, oui, c'est Inspecteur Gadget, en fait.
Ouais, c'est ça.
Bonjour, Monsieur Phelps. Il est inutile de vous rappeler que ce qui vous sera confié ici doit rester strictement confidentiel. Et que, dans le cas où vous échoueriez, nos services nieraient toute collaboration entre vous et nous, enfin, c'est-à-dire tout contact, bref, vous vous démerderez. À présent, ouvrez l'enveloppe. Cet homme se nomme Patrick Sabatier.
Ouais, mais encore une fois, tout ça dans un quand même pseudo souci de confidentialité que Bond n'aura jamais.
C'est vrai.
Donc il cherche quand même. Il y a un effort quelque part.
Bon, on est même match. Match nul.
Match nul.
Ah bah, écoute, match nul. Hey,
si on veut sur la popularité, j'ai quand même fait une recherche rapide qui m'a pris vraiment une seconde sur Google. Quand tu tapes James Bond, il y a 745 millions de résultats qui arrivent. Et quand tu tapes Ethan Hunt, donc tu en as 48 600 000. Voilà.
Bah non, bah, comme dit Mosinor, tu peux pas tester.
Tu peux pas tester. Avec la boîte à Lambert.
Bon, donc ça fait toujours 1-0 en fin de compte.
Ouais, oui, tu peux mettre ou 2 ou 2-1.
Ou 1.5 voilà, contre 1.5. Ouais.
Ah, j'oubliais la boîte à Lambert, hein. Ça c'est expérimental, attention. Ouais, ça reproduit le rire de Christophe Lambert. Et ça fait peur aux chiens. Bon, la suite, bon. Hé, arrête de jouer avec ça maintenant, range-le dans ta poche, tu m'énerves. Hé, je t'ai dit de ranger ça dans ta poche, sinon je t'en fous une raclée, tu vas t'en souvenir, hein. Espèce de petit salopard, tu vas voir. Non mais faut pas jouer avec moi, parce que moi... Ça...
Ouais, c'est bon, papy, reste tranquille, t'as craqué ou quoi? Je suis James Bond quand même. Tu peux pas tester?
Ouais, bon, bah, un coup de genou dans les couilles, tu vas voir James Bond par terre avec un coup de ta tête dans la gueule, ce qui va devenir.
Alors, on va passer au troisième point, qui est le plus crédible. Et là, on avait mis en tant qu'agent secret, plus ou moins secret, du coup, ouais. Ou en tant qu'être humain, en tant que vraie personne. Et on peut rajouter plein d'autres points au fil de la discussion, si on veut. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qui est le plus crédible?
Ah bah du coup, oui, effectivement, en tant qu'agent secret, comme on a dit tout à l'heure, on est obligé de donner le point à Ethan Hunt, qui au moins ne divulgue pas son nom et son prénom à l'instant où il rentre dans la pièce. Donc il y a au moins cet effort d'aller changer dans les toilettes pour mettre son masque imprimé avec l'imprimante 3D. Et de passer par les conduits d'aération pour faire genre ça va, je me suis un peu infiltré, quoi.
Vite fait.
Voilà, vite fait. Que Bond, limite, il va chercher le moment où il va se faire démasquer pour pouvoir un peu mettre des mandales à qui mieux, quoi.
Ouais.
Donc, ouais, je pense qu'en tant qu'agent secret, même si ils sont pas plus soutenus ni l'un ni l'autre par leur hiérarchie, pense que Ethan marque le point vraiment sans effort.
J'ai l'impression que Ethan Hunt a des ennemis plus crédibles aussi, qui ressemblent éventuellement plus à des vraies menaces de la vie réelle, alors que James Bond, c'est quand même souvent vraiment n'importe quoi.
Alors que Mathieu Amalric en éco-terroriste, toi, t'achètes pas, quoi. C'est ça que t'essayes de me dire.
Putain, j'avais oublié.
Comment on peut oublier Mathieu Amalric qui a abandonné au milieu du désert avec je sais plus ce qu'il avait, de l'essence à boire, je sais plus ce que c'était là.
Ah ouais, je me souviens de la baston à coups d'extincteur.
Ah ouais, bah incroyable. Bah ouais, le pauvre. Je continue de le défendre quand même, parce que j'ai beaucoup de sympathie pour Mathieu.
Ah, mais c'est un acteur et un réalisateur que j'aime énormément. Ouais,
mais
là, j'ai pas compris.
On l'a pas aidé. Voilà. On l'a un peu jeté comme ça.
Le reste faire. Est-ce que t'as déjà fait un truc sur les Français de James Bond?
Ah non, mais c'est vrai qu'il y a de quoi raconter. Bah d'habitude en fait les gens s'arrêtent aux Bond Girls, mais c'est vrai que tu peux quand même élargir à un peu plus d'acteurs quoi.
Il y a un truc à creuser.
Ouais,
la
grave,
France dans
grave.
James Bond, les Français dans James Bond.
Enfin, bah ouais, bref. Bah même si tu considères le côté français de Michael Lonsdale, qui est aussi décédé cette année. Ça fait beaucoup de gens qui sont décédés cette année quand même. Hein,
oui, c'est vrai.
Mais oui, je pense qu'il y a de quoi faire, ouais.
Enfin bref. Donc en tant qu'agent secret, Izan est plus crédible. Et
ouais.
En tant qu'être humain, alors, je vais dire d'abord d'un point de vue... Ah, j'ai envie de dire d'un point de vue physique, mais après, on a un point de confrontation directe.
Ah,
on va
ouais.
pas trop spoiler.
Okay.
Peut-être qu'on va se garder ça pour le point suivant.
Ouais, bah on peut dire, sinon, pour le côté agent secret, on peut aussi dire, justement, en parlant de son équipe, en fait, de la manière, voilà, les meilleurs un peu, les meilleurs alliés pour réussir un peu leur mission. Alors, on va dire que c'est James Bond, d'un côté, d'un point de vue second couteau emblématique, forcément gagne haut la main parce que n'importe qui a vu des James Bond peut te citer M, peut te citer Q, peut te citer Moneypenny ou autre, mais c'est que des personnes, sauf très très rares exceptions, qui ne sont pas sur le terrain en fait. C'est que des gens qui restent cantonnés au MI6. Alors que on voit vraiment que Ethan Hunt est vraiment entouré d'une team et que les missions sont littéralement les missions impossibles sont vraiment organisées en tant qu'équipe avec chaque personne qui a vraiment un rôle prédéfini à faire, même si c'est juste bah voilà, je suis dans la rue et j'ai croisé Rebecca Ferguson et du coup elle fait partie de ma team dorénavant. Mais effectivement, là, au moins, il y a quand même un côté un peu plus crédible et moins One Army Man, même si bon, Tom Cruise est ce qu'il est. Mais ça repose un peu plus sur une équipe quand tu vois Simon Pegg qui est là et qui file un coup de main. Enfin, il fait partie intégrante de l'équipe, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Oui, d'ailleurs, je trouvais que c'était hyper bien exploité dans le dernier. Ce
oui.
côté team et les relations humaines au sein de l'équipe, je trouvais que c'était plutôt bien foutu et intéressant. Et alors que James Bond, il en a globalement pas grand-chose à carrer de ses collègues.
Ouais, bah c'est ça. Bah James Bond, il va être accompagné vite fait d'une James Bond girl pendant l'aventure. Et puis voilà, si elle meurt, c'est pas si grave, quoi.
Oui. Si ça. Bon, il y a quand même eu des relations intéressantes qui ont été explorées avec M.
Oui, ah oui, bah M est vraiment à part. Mais bon, après déjà M, vraiment période Judi Dench, quoi.
Oui,
mais,
voilà.
Mais oui, bien sûr. Enfin là, c'était vraiment le meilleur. Enfin, l'une des meilleures choses qui soit arrivée à Bond. Bah du coup on peut le dire 20 dernières années c'est effectivement sa relation avec M, même si je sais que beaucoup grincent des dents à l'idée d'avoir gardé la même actrice de Pierce Brosnan à Daniel Craig. Elle est incroyable et tout son arc est incroyable en fait. Vraiment tout ce qui a été fait dans Skyfall, bah c'est super quoi. Alors je sais pas, j'essaye de bon voilà, ceux qui ont vu comprennent et puis comme ça spoil pas trop. Ouais, on va dire ça comme ça.
oui alors, peut-on vraiment spoiler James Bond? Je ne sais pas.
Ouais, bah c'est ça bon, on va rester comme ça.
J'ai spoilé le premier Mission Impossible d'entrée de jeu, je me dis qu'il est sorti
c'est
il y a 25
vrai,
ans
oui bon, oui
ça peut passer. Et alors, d'un point de vue agent secret, Ethan Hunt est plus crédible et on en a déjà parlé plus tôt, mais je trouve que d'un point de vue cyberguerre et tout ça, je trouve que c'est un peu plus dans l'air du temps que ce que fait James Bond. C'est vrai que James Bond, ça fait un peu le boomer.
Ouais, c'est ça.
Il sait pas utiliser son ordinateur.
C'est un peu ça. Bah, ouais, il se fait traiter par M justement de fossile quoi. Donc ouais. il faut y aller quoi.
Donc il y a ça.
Sinon, on peut aussi prendre comme critère le fait que Hunt essaye de se rapprocher le plus possible du fameux body count zéro. En fait, il essaye d'éviter en fait de quand il peut de oui. tuer des gens de manière gratos. Contrairement effectivement à Bond qui n'en a rien à faire, qui fait exploser des bâtiments entiers sans trop réfléchir en disant oui mais c'est pour le travail. Et
oui. C'est vrai qu'une fois de temps en temps on lui dit ouais quand même là ça faisait beaucoup là quand
un
même.
Peu trop. Donc
oui,
du coup
mais...
ça rajoute du poids quand même voilà au point d'Ethan Hunt d'un point de vue purement professionnel.
Oui.
Il essaye de faire ça bien.
Et d'un point de vue, il y a mon chat, je pense, qui fait beaucoup de bruit dans le micro, là.
Tout va bien.
Est-ce que, d'un point de vue intime et amoureux, est-ce que Ethan Hunt n'est pas un peu plus crédible aussi ? Ou en tout cas, il est plus sensible ?
Oui, bah, il a l'air d'avoir aussi d'avoir un cœur. Je me suis fait la réflexion en préparant l'émission, en me disant, tu vois, bah, les deux ont côtoyé Léa Seydoux quand même.
Ah, c'est vrai.
Voilà. Quand ton point commun, c'est Léa Seydoux, c'est compliqué, quoi. Je ne vais pas tomber dans le Léa Seydoux bashing, mais bon. Mais après, oui, effectivement, d'un point de vue au moins, comment on va dire, stabilité sentimentale, oui. on peut donner le point à Ethan Hunt. En fait, c'est-à-dire que tout dépend ton niveau de où est-ce que tu mets la barre si tu te dis que t'as réussi ta vie quand t'as couché avec les plus belles femmes du monde et elles étaient nombreuses mais elles sont toutes mortes et tu n'as noué de relations intéressantes avec aucune ou t'en as eu peu mais elles sont de qualité.
C'est vrai.
Donc ouais, il faut voir surtout quand en plus voilà dans ton entourage tu as entre autres donc Rebecca Ferguson, comme je le disais, je suis un peu amoureuse de Rebecca Ferguson, mais elle est incroyable quoi.
Ouais, non mais c'est vrai que ils sont tous les deux bien entourés, mais bon, Ethan Hunt a quand même essayé un peu plus de voir une vraie vie amoureuse, on peut lui
oui,
accorder
voilà.
Ça.
Oui, voilà, il a pas c'est pas forcément c'était pas forcément un succès non plus, mais mais au moins il essaye, il est un peu moins volage quoi. Mais
là aussi je trouve que dans le dernier c'est plutôt intéressant comme c'est traité.
Oui, je trouve aussi, ouais. Vraiment bah du coup toute la fin du film ouais. J'allais dire, je ne sais plus où c'est, je me rappelle qu'il faisait froid, qu'il y avait de la neige, ils portaient des bonnets.
Dans les Ardennes,
bon. Dans les Vosges, pardon, c'est pour les gens de Lorraine. Non. Bon, bref, mais c'est vrai que tout ce moment où justement ils se répartissent l'émission et qu'ils retrouvent sa femme, c'est vraiment très touchant, quoi.
Ouais. Bon, donc ça veut dire qu'on va donner le point de la crédibilité à Tom, enfin à Ethan.
Ouais, bah ouais, on est obligé, quoi. On est obligé.
On est obligé. Alors, faisons les comptes. Donc, on est à 2 points pour James.
Alors, j'ai pas compté, non. Mais oui, je compte sur
non.
toi pour compter.
Non, non, je dis n'importe quoi. Non, non, on est à égalité parfaite.
Do you think James Bond could take on a Mission Impossible?
I love those movies. You know, I love those movies. It's a great franchise. And, you know, I look forward to Daniel Craig. I think he's just wonderful. He's a great Bond.
Do you think he'd beat him in a fight?
I don't want to fight him. I like his movies.
Et ben du coup, il y a égalité. Tout va se jouer dans le dernier round. Et le dernier round, c'est celui qu'on préfère dans cette émission. C'est qui remporterait une confrontation directe.
Quand ça tape, quand c'est la bagarre, tu veux dire?
La bagarre, la bagarre, pas forcément la bagarre, ça peut être l'affrontement aussi.
C'est vrai.
C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, ils sont tous les deux, ils doivent tous les deux récupérer le même machin, ou alors il y a la guerre entre l'Angleterre et les États-Unis. Bon, peu probable. Mais quoique...
On ne sait pas.
Là, au moment où on enregistre cette émission...
on ne connaît toujours pas le résultat des élections américaines.
Et donc, ils doivent tous les deux récupérer un bidule et ils doivent se battre pour récupérer le bidule. Qui, à ton avis, arriverait à récupérer le bidule ?
Alors ma théorie, attention, qui a été mûrement réfléchie, est que si, en cas de bagarre, d'affrontement pur, des points, tu vois, vraiment, ouais. C'est, on se tape et on y va, Ethan Hunt gagne, pour moi, sans l'ombre d'un doute.
Ouais, je suis d'accord.
Parce que tu vois qu'il maîtrise quand même des techniques d'arts martiaux.
Dans Mission Impossible 2, il fait littéralement un flash kick à la Guile dans Street Fighter. Quoi.
Ouais, quel homme. c'est incroyable. Alors que James Bond, quand il se tape, c'est vraiment il met des patates de forain, mais il est pas, y a pas la classe et l'élégance. C'est juste, il essaye de te taper parce qu'il veut te faire mal, mais il y a pas l'intention de neutraliser l'adversaire de manière efficace et un peu stylée qu'a Ethan Hunt. N'oublions pas d'ailleurs de rajouter que Ethan Hunt, contrairement à Bond, n'est pas un alcoolique notoire. donc du coup, je pense qu'en ayant un esprit sain, en tout cas sûrement un corps sain, oui. Il a peut-être encore plus de chances, d'un point de vue vraiment one-to-one physique, de s'en sortir. Pour moi.
Alors, on imagine bien faire des abdos et des pompes tous les matins.
C'est ça, genre allez, on y va.
alors que Bond, pas tellement quoi.
Ouais, alors que Bond, c'est plus, il va se lever et puis il y aura encore. La meuf de la veille en train de dormir à ses côtés, quoi. Puis il attend qu'elle parte.
Mais dis-moi si je spoil ce que tu allais dire, mais dans une confrontation directe, il y a la technique pure, la force physique, mais il y a aussi la roublardise, l'esprit du duel.
C'est ça. Moi, je pensais plutôt à ma deuxième partie, c'était plus l'affrontement pouvait se faire autrement qu'un face-à-face point-pied, tu vois. Je me suis dit que si, par exemple, c'était un affrontement ne serait-ce que flingue ou voire même course-poursuite. Ah. Compliqué. Pour moi, course-poursuite en voiture, c'est très,
qui
c'est très réfléchi.
Mieux, tiens.
Voilà. Pour moi, course-poursuite en voiture, James Bond gagne.
Ouais, je suis d'accord.
Là, clairement, il n'y a pas moyen. Même si Tom Cruise, par exemple, a fait des merveilles dans Fallout.
Il est balèze quand même.
Voilà,
aussi.
En moto et qu'il arrive à faire opéra et la place de l'étoile en une seconde. Donc c'est dire à quel point il roule vite, mais je pense que clairement James Bond dans des conditions de course-poursuite un peu compliquées, il a réussi à conduire toutes les bagnoles. Il a fait des courses-poursuites en deux chevaux, donc je pense qu'en vrai il peut s'en sortir. À partir du moment où il est derrière un volant, c'est Dominique Toretto quoi, il s'en sortira quoi qu'il arrive.
C'est vrai. Donc, course-poursuite.
Voilà. Mais s'il fallait un peu ruser et pas forcément la jouer réglo,
ouais.
peut-être que Bond arriverait à la jouer un peu sale et à prendre le dessus sur Ethan Hunt.
Ouais. Ouais, je pense qu'il serait plus à même de faire un sale coup, quoi.
Ouais. Ouais, je vois. Après, Ethan Hunt est peut-être plus réfléchi, donc arriverait peut-être à anticiper des choses ou analyser la situation et trouver un peu la meilleure solution. Mais ouais, s'il fallait être un peu filou, je vois bien Bond gagner, quoi.
Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, je sais pas, mais j'ai l'impression que Bond, c'est quand même un mec qui est pas souvent maître de son destin. Mm-hmm. En fait, c'est quand même souvent un mec qu'on a l'impression que c'est un mec qui est un peu en dilettante et on lui dit « Bon, faut que t'ailles là-bas, t'occuper. De... » Ouais. Il y a un truc qui va pas là-bas, faut que tu ailles t'en occuper parce que ça va pas. Et puis il y va un peu les mains dans les poches en disant je suis James Bond en fait et je suis venu pour régler les problèmes. Et Après, on lui dit, ouais, faut que t'ailles là, puis il y va. Et... Alors qu'on a l'impression que Hunt, il est plus, il réfléchit à des plans.
Il est un peu plus préparé, quoi. Mm. Ah ouais, non, c'est clair.
Et puis il y a ce passage dans le premier Mission Impossible que je trouve vraiment cool où en fait il comprend la machination. Mm-hmm. Et tu vois, et c'est super habile de la part de Palma. Enfin, on pouvait s'y attendre. T'as l'antagoniste qui fait son récit faux. Mm-hmm. Et donc t'as le faux récit et en image t'as ce qui s'est passé vraiment en fait.
Ouais.
C'est super malin en fait. Et t'as pas ce genre de truc chez Bond quoi. Enfin, je sais pas, ou je me trompe, ou est-ce qu'il y a des moments où Bond nous éblouit par son intelligence ?
Pas tant que ça. Pour moi, c'est vraiment plus la force brute, mais de là à dire qu'il est plus malin que ses ennemis, pas forcément. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je le vois, quoi. C'est vraiment, il est dans la mouise et il faut qu'il trouve une solution. il est dos au mur et il y va. Mais de se dire, anticiper un peu le sale coup qui va lui arriver, j'associe ça beaucoup plus à Ethan Hunt qu'à James Bond. Ça, c'est clair.
Ouais. C'est marrant parce que c'est vrai que Bond, dans les derniers films, il se fait un peu traiter de vieux, de fossiles et tout ça, et c'est vrai que malgré tout il porte toujours quand même un peu un ADN de personnage qui a été créé il y a longtemps. Mmh. Alors que Hunt a pour lui d'être plus récent, donc peut-être plus dans l'air du temps, quoi.
Ouais, et puis en plus effectivement les gens ont vraiment associé, enfin ont plutôt dissocié vraiment le Mission Impossible franchise et Mission Impossible série télé, quoi. Enfin, c'est vraiment Les films sont devenus à part, quoi.
Je pense que on a même, je pense que beaucoup de gens savent même pas qu'il y a eu une série avant, en fait. Et je ferai pas le malin parce que, comme je disais, moi j'avais vu aucun épisode jusqu'à présent, donc pas vu un épisode en entier.
Après, je pense que la musique est quand même connue.
Oui.
Pareil, assez culte pour que les gens au moins sachent que. Ça vient de quelque part, enfin on va dire la plupart des gens.
D'ailleurs, ça m'avait traversé l'esprit de faire un round de musique.
C'est vrai. Niveau compositeur ou niveau.
Niveau musique, le truc c'est que c'est un peu unfair parce que pour le coup, la musique ça fait vraiment partie de l'ADN. Des James Bond, quoi.
Bah alors, tout dépend si tu veux comparer... Alors, attention, il faut être précis. Tout dépend si tu veux comparer les scores ou si tu veux comparer les génériques. Parce qu'après, si tu restes sur les scores purs, ceux de Mission Impossible sont pas dégueux, hein, donc...
C'est vrai que les deux musiques sont très emblématiques, ultra emblématiques, toutes les deux, autant l'une que l'autre, quoi.
Parce que là, après, tu vois, je regarde un peu pour pas dire de bêtises, mais tu vois, le premier Mission Impossible, le compositeur c'est Danny Elfman, donc pas la moitié d'un mauvais, quoi. Le 2, Hans Zimmer, bon, je suis pas une grande fan de Hans Zimmer, mais on va dire qu'il est connu. Et le 3 et 4, c'est Giacchino. Je sais jamais si je le prononce bien ou pas. Giacchino.
Bon, je valide.
Après Ethan Hunt, est-ce qu'on vraiment m'en voudra? Rogue Nation, du coup, c'est par contre Joe Kramer, et donc Fallout, et donc bientôt le 7, Yalla, peut-être un jour, Lorne Balfe.
Mais je connais pas ça.
Ouais, non, les deux derniers, mais bon, au moins à partir du moment où t'as quand même dans ton escarcelle Hans Zimmer, Danny Elfman et Giacchino, tu souffres pas trop de la comparaison. Après, oui, c'est vrai que si on en vient peut-être au thème, on peut comparer le thème de James Bond et le thème de Mission Impossible, si tu veux.
Bah voilà, ouais, le au niveau thème. Alors, si je me trompe pas, c'est Lalo Schifrin qui a composé le thème de Mission Impossible. Mm-hmm. Ouais. Donc, pas mal.
Ouais.
Comme référence.
Oui, c'est clair.
Pas donc, trop mal coup, comme référence.
C'était les Dirty Harry aussi, c'est ça?
Oui, Opération Dragon aussi, enfin pas mal de trucs quoi. Bullitt. Et bon, John Barry à part James Bond.
Ouais.
Mais il a fait James Bond.
Mais voilà. Mais c'est tellement culte que mais bon que c'est difficile à toper. Ah, il a fait générique aussi d'Amicalement Vôtre. Si tu veux,
pas mal.
Et là, du coup, on retourne sur le côté série télé, tu vois.
Ouais, donc, pas mal. Ouais. Et je crois qu'en plus, le thème de James Bond, il l'a plus ou moins piqué à une chanson indienne. Faudrait que je retrouve ça, mais en fait, c'est une inspiration d'une chanson pop indienne.
Ah, alors là, je veux pas dire peut-être.
J'ai découvert ça il y a pas longtemps.
Ouais.
I was born with this unlucky sneeze, and what is worse, I came into the world the wrong way round. Pundits all agree that I'm the reason why my father fell into the village pond and drowned. I was born.
Bon, on délaye, mais donc au final.
Bah ouais, mais du coup, c'est dur.
Prendre la baston.
Ah, bah ouais, mais c'est ça, tu vois. Le problème, c'est que le point de la baston, il y a des sous-points de la sous-baston, donc. On peut vraiment donner le point de la baston faire à Ethan Hunt et le point de la baston pas faire à James Bond. Et le point de la confrontation indirecte type course-poursuite à James Bond. Et là, du coup, t'as ton compte.
Ouais. Mais en voiture. En moto, tu vois, je sais pas.
Ah ouais, ouais. Toi, tu penses qu'en moto, Hunt est meilleur que Bond?
Il est balèze en moto quand même, Hunt.
C'est vrai qu'il est balèze, mais bon.
Et en vélib, on sait pas. On n'a pas vu dans la.
attends, je réfléchis. Il n'y a pas, non, à un moment, non, ouais, Tom Cruise, c'est pas de Vélib hein, dans Fallout. C'est.
Non.
Ouais, non, dommage.
Non, c'est dommage, ça aurait été cool.
Ouais, ils zonent dans le 15e, mais il ne fait pas de Vélib, quoi.
Après, Bond, il a quand même. On s'attarde un peu sur les véhicules, il sait piloter un jetpack, il sait faire du ski.
Ouais. Après, non, tu vois, Bond, je repensais en moto, la course-poursuite avec Michel Yeo, tu vois que. Il peut faire une course poursuite et tu vois.
Non, c'est vrai.
C'est compliqué. Et même quand tu vois, c'est l'intro de. Non, pas Quantum of Solace, justement. Skyfall, qui est sur les toits en Turquie. Et il est en moto aussi.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai que j'ai un peu envie de lui donner le point
en
moto.
Non, c'est vrai. Il est balèze en moto aussi. Non, c'est vrai. J'ai été influencé parce que.
Après, Tom Cruise conduit mieux l'hélicoptère de mes souvenirs de Fallout, tu vois. Que Bond, effectivement, quand il conduit un truc un peu plus sophistiqué, il le crache plus rapidement.
Moi, je te propose un truc, c'est qu'on dit match nul sur ça. Et je rajoute un nouveau round.
Oh là, vas-y.
Un round surprise, tu n'es pas au courant.
Oh mon Dieu, vas-y, surprends-moi.
Mais je sais déjà qui c'est qui va gagner.
Ah ouais.
Qui est le plus swag.
Mais alors du coup, c'est lequel qui a le swag de Michel Polnareff? Alors, j'ai pas compris dans mon intro.
Ça, c'est à chacun de déterminer.
Parce que moi, du coup, j'imagine deux vraiment avec la coupe de cheveux de Polnareff. Et bon, ça match pour aucun.
Non, en fait, c'est comme j'avais dit qu'il y en avait un qui avait fait l'amalgame de l'autorité et du charme.
Ouais.
Je me suis dit qu'il fallait, comme c'était une référence Sardou, il fallait équilibrer avec une référence à un autre Michel. C'est juste ça. C'était juste pour ça.
Ouais, mais je pensais que t'avais vraiment un vrai équivalent en tête, tu vois. Que t'avais poussé le vice jusque-là.
Complètement random.
Ah merde, dommage. Bah, le swag. Non, bah le swag, je suis obligée de le mettre à James Bond. Hein, la question se pose même pas. Ethan Hunt a beau porter magnifiquement bien les petits pulls noirs moulants sans souci. À partir du moment où James Bond sort d'un train qui crache et réajuste sa cravate ou ses boutons de manchette, il aura plus de swag que n'importe quel être humain sur Terre ad vitam, quoi.
On peut pousser ça un peu jusqu'à la question des interprètes.
Ah bah oui, alors là si. Après c'est compliqué. Alors tu veux dire le swag des acteurs pour de vrai ou les comparer humainement, parce que là aussi c'est dur hein.
Non, là ça va devenir ça va être compliqué, mais non, c'est-à-dire bon, évidemment sur le swag pur et dur des personnages, je pense que Bond est quand même a quand même plus de style, est toujours quand même toujours bien habillé.
Ah ouais, là pour le coup
Il déambule dans des casinos avec un petit verre à la main et une classe.
Comme dit Vesper, il y a smoking et il y a smoking. Voilà, donc c'est
tout est dit. Alors que bon, Izan, c'est pas trop son truc de, c'est moins son truc. Il peut le faire de temps en temps, mais c'est moins son truc.
Ouais, bah c'est ça. Bah il est un peu moins dans la para. Il est dans l'efficacité, quoi.
Ouais. Donc voilà. Après, non, mais en fait, je me disais, tiens, qui est le. Enfin, c'est pas comparable parce que d'un côté, il y a eu 6 ou 7 interprètes. J'ai perdu le compte d'ailleurs à force. D'un côté et un seul de l'autre.
Bah c'est ça, c'est un peu dur. Et même si tu veux être fair et te dire, on compare que brutalement Daniel Craig et Tom Cruise, hein, tu vois. Ouais. C'est vraiment. Faut voir. C'est ton jeu, c'est tes règles.
Non, mais là, c'est Bond qui gagne. Le point du swag, c'est Bond qui le gagne. Et le point du. Non, après, ce qu'on pourrait faire vraiment un jour, c'est faire un c'est qui le plus fort, Tom Cruise contre Batman, par exemple.
Ah ouais.
Là, on pourrait vraiment. Ouais. Voilà. Comparer Tom Cruise à un personnage de fiction ou à un dieu, où là, on pourrait vraiment rentrer dans le détail.
Bah déjà, je pense qu'il se prend déjà pour Dieu, donc on n'en serait pas si loin. Après, mais je suis en train de penser, du coup, Tom Cruise égale Dieu égale tout ça. On n'a pas rajouté la catégorie des cascades. Et là, vraiment, ça peut être compliqué et on pourrait donner le point à Hunt.
Ah, tu trouves ?
Je t'aide pas. Hein. Bah ouais, bah, le truc, c'est que voilà, les cascades de James Bond sont certes extraordinaires, mais elles ne sont rarement faites par l'acteur, tu vois. Que là, le truc, c'est que la franchise Mission Impossible, surtout sur ses derniers films, le marketing, lui, n'est pas axé sur la montre Omega, mais sur « Regardez, Tom Cruise s'est suspendu à un avion qui décolle et on a filmé. » Ou « Regardez, Tom Cruise a sauté d'un avion avec sa petite combi et le pauvre caméraman qu'on ne félicite jamais assez qui saute avec lui en même temps. »
Ouais, ça c'est incroyable. Ça c'est un truc que je comprends pas en fait. Je comprends pas ce que ça apporte que ça soit lui qui fasse les cascades. Enfin, c'est-à-dire pour lui c'est cool, hein, il s'éclate. Mm-hmm. Et puis ça fait un marketing d'enfer. Mais concrètement,
tu veux dire toi en tant que spectateur,
ça soit lui ou un cascadeur.
Ah bah oui, bah parce que là on sait bien que c'est lui quoi, ça y a pas de souci, parce que la preuve, quand ils sautent de l'avion, ils ont, enfin tu vois qu'ils ont pensé à éclairer le casque alors que ça n'a aucun intérêt, pour que tu vois bien que c'est le visage de Tom Cruise du début à la fin.
Ouais. Sachant que ça aurait pu être largement fait en post-prod quoi.
Bah ouais, mais c'est ça, je pense que de toute façon il est, voilà, il aime bien se prouver qu'il vieillit pas, donc il y va à fond quoi. Quitte à continuer, voilà, les histoires de Tom Cruise s'est pété la cheville sur le tournage, il a continué sa scène, il a continué tout ça. Enfin, et là on est obligé d'être fair et de donner un point à Ethan Hunt pour l'effort de Tom Cruise, quoi.
D'accord. Bon, alors du coup, ça nous fait.
Ouais, je crois qu'on est rematch nul, hein. Ah, c'est dur.
Bon bah écoute, est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on trouve un dernier point,
je réfléchis. J'allais dire, je pensais un peu au one-liner, tu vois, mais on peut le compter dans le swag, donc ce serait tricher que de faire un peu doublette pour donner un point en plus à Bond, ce serait peut-être trop superficiel. Après, pareil pour les méchants, est-ce qu'on en a parlé, mais est-ce que ça n'a pas été vraiment quantifié dans une catégorie ici?
Non.
James Bond, allow me to introduce myself. I am Ernst Stavro Blofeld. They told me you were assassinated in Hong Kong.
Yes, this is my second life.
You only live twice, Mr. Bond.
Alors, les méchants, je pense que qui a affronté les méchants les plus redoutables, je pense que c'est Bond.
Bah, c'est ça, tu vois, tu peux pas tester un mec qui a des dents en acier et qui découpe des câbles avec sa bouche. Enfin, au bout d'un moment.
ou Grace Jones.
Ou Grace Jones. Ah, mais elle est incroyable.
Tout simplement.
Voilà. Ou Famke Janssen qui essaie de t'étouffer entre ses cuisses. Tu vois, est-ce que Tom Cruise, il a ça? Ça, il l'a pas.
Donc, non. Même si, dans le dernier, il a quand même eu un bel adversaire.
Ah. J'en rêve encore la nuit, tu sais. Incroyable.
Okay. J'étais un peu triste qu'il soit méchant, mais bon.
Bah ouais, mais justement, c'est là qu'il est plus beau. Est-ce que le véritable méchant, ce ne serait pas plutôt la moustache d'Henri Cavill qui a ruiné Justice League? Parce que c'est pas ça. Le véritable antagoniste de toute cette franchise.
En fait, la moustache, c'est l'antagoniste de tout le DC Universe.
Bah, c'est ça, hein. C'est dur. Ils s'en remettront jamais, de toute façon. Donc.
Plus fort que Darkseid.
Le bec de lièvre numérisé d'Henri Cavill, quoi.
Bon, bah écoute, grâce à ses collègues méchants, parce que bon, finalement, c'est un peu ses collègues de travail aussi.
oui, on peut considérer ça comme ça.
C'est ses collègues de travail, les méchants. Je veux dire, c'est des gens qui font le même travail que lui. C'est un peu comme des fournisseurs, en fait. C'est des gens qui sont là pour lui fournir qui lui apportent son travail.
Voilà,
s'il n'y a pas de méchant, il n'y a plus de travail. Hein.
C'est vrai. Ça, on n'y pense pas assez, alors que les temps sont durs.
Imagine un jour, il n'y a plus de méchants. Les méchants font la grève.
Bah, ouais,
mais il fait quoi, James Bond?
Bah, il reste chez lui, quoi. Bah, après, il trouvera toujours des petites zoulettes, hein, je pense. Mais ouais, il va déprimer. Bah, il va boire. C'est ce qu'il sait faire de mieux. Donc, ouais, il va boire. Hein. Et fumer beaucoup, je pense.
Ouais. Eh ben, on va lui donner le point de la victoire. Hein,
voilà, ça y est, là. C'est... on y est. Bah ouais, bah. Il faut bien... Bon, bah, on savait qu'on allait finir là-dessus, quand même. Non? Moi, je pensais que...
Oui, non, mais je pouvais pas... On pouvait pas... C'était trop dur de faire gagner... de faire perdre James. Même si...
Bah, ouais.
Même si on a passé toute l'émission à dire que quand même, Ethan Hunt, il est fort, il sait faire plein de choses, il fait des cascades de fou, il est meilleur dans la technologie.
Bah,
oui,
mais
notre cœur est chez James.
Bah, c'est ça, à la fin, c'est qui le plus fort? Bah, c'est James, c'est tout.
Et bah, c'est James et c'est tout, voilà. Exactement, ça sera le mot de la fin.
Quelle conclusion.
J'aime bien parce qu'on a vraiment littéralement passé toute l'émission à expliquer quand même à quel point l'autre était plus fort, mais non.
Mais oui, mais parce que la vie, c'est ça aussi. La vie n'est pas toujours très juste.
Désolé, Izan.
Bah ouais, désolé. Mais ne t'inquiète pas, j'attends ton film avec impatience.
Oui.
Ouais, non, mais on verra. On va déjà voir un jour No Time to Die et puis on verra pour Mission Impossible 7 et 8 back to back. And you really think we can do this? We're going to do it.
Bah merci beaucoup.
Merci à toi, c'était super.
Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Bah, principalement, je pense que le plus simple, c'est quand même Twitter. Donc du coup, @@, comme disent les jeunes, Wonder Vesper, donc Wonder _ Vesper. Et donc c'est pareil, c'est le même pseudo partout, que ce soit Twitter, Instagram, Twitch justement, TikTok, parce que maintenant j'ai décidé d'être jeune.
Ah, bravo.
Ouais, c'est... Encore une fois, hein, quand on est enfermé chez soi, on trouve des trucs à faire, on s'amuse bien. donc du coup, voilà, c'est quand même le plus simple. Et puis la chaîne YouTube, peut-être un jour. Mais en attendant, voilà, le plus pratique reste quand même le Twitter avant tout.
Ok, super. Eh ben, ça fait tellement longtemps que j'ai pas enregistré d'émission que je me souviens plus ce que je disais à la fin, mais grosso modo, ça ressemblait à merci. Vous pouvez retrouver l'émission sur Twitter, vous pouvez suivre les nouvelles de l'émission sur Twitter, sur Facebook et nous dire si vous êtes d'accord avec le résultat ou pas. Ça nous fera pas changer d'avis, mais ça nous fera plaisir d'en parler.
J'adore.
Ah, c'est fait, hein.
C'est vrai,
comme
c'est
disaient
trop
les copains,
tard.
C'est dans le marbre.
Ah oui, on les embrasse.
Et puis, nous suggérer aussi des nouveaux thèmes d'émission. Par exemple, alors les chats contre les chiens, ça a déjà été fait. Mais, mais en tout cas, n'hésitez pas, franchement, si vous avez des envies et des idées d'émission. Comme je disais en intro, le confinement a fait que je suis resté hyper longtemps sans faire de nouveaux épisodes. Ça faisait depuis le mois de mars que plus rien n'avait été enregistré. Et j'essaye de relancer, peut-être d'élargir un peu le format, de faire ça un peu plus vaste. Et ouais, non, le Fast and Furious contre Mission Impossible, je pense que ça peut être tout à fait envisageable.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.